Bienvenue dans le rendez-vous de cette année-là. Cet après-midi, vendredi 11 novembre, notre invitée est Odile Gollier. Odile est annécienne. C'est une maman de 6 enfants, dont Paul, qui est dyslexique. Et depuis que le diagnostic a été posé, Odile se bat pour faire connaître et reconnaître ce trouble d'apprentissage afin de mettre en place une meilleure prise en charge des enfants qui en souffrent. Elle a écrit un premier livre, Témoignage, en 2009, 10 sur 10. Et cette année, elle a publié un livre en 2 tomes. Et là, elle est allée beaucoup plus loin. C'est un livre méthodologique et pédagogique pour aider les parents et les enseignants qu'elle nous propose, et notamment sur l'enseignement de l'anglais, puisque Odile a fait ses études en langue étrangère appliquée, en anglais. Odile est avec nous pour nous en parler jusqu'à 15h. Odile Gollier, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être venue nous voir. On vous avait reçu il y a quelques années avec ce premier livre Témoignage.
Oui, je m'en rappelle.
Où vous nous racontiez un petit peu toute l'histoire de votre fils. Et là, vous êtes allé plus loin, vous avez franchi une étape supplémentaire. On va pouvoir en parler avec 2 livres plus aboutis. Là, on n'est plus sur du témoignage, on est vraiment sur une méthode avec de la pédagogie, des conseils très concrets pour aider les parents et les enseignants. C'est un aboutissement pour vous ?
Oui, c'est un aboutissement de toute la transmission que j'avais envie de faire avec toute l'expertise acquise sur le terrain pendant ces 13-14 années d'accompagnement de mon fils dyslexique.
On va découvrir vos livres et puis on les offrira également au bout de la ligne bleue, parce qu'on sait que la dyslexie touche beaucoup d'enfants et qu'il y a beaucoup de parents un peu désemparés qui aimeraient les aider mais qui ne savent pas trop comment s'y prendre, et même des orthophonistes, des enseignants qui nous écoutent, qui peuvent également prendre la parole. Avant de rentrer dans le vif du sujet, quelle définition vous donnez avec vos mots, Odile, de la dyslexie ?
La dyslexie est un trouble d'apprentissage qui est un trouble spécifique de l'apprentissage lecture-écriture. C'est un trouble durable qui ne se détecte qu'après 18 mois de retard dans l'apprentissage lecture-écriture.
Et on reste dyslexique à vie, hein. On est dyslexique et on meurt dyslexique.
Hein. Tout à fait.
Donc il faut apprendre à vivre avec.
Elle se définit en fait comme une difficulté durable dans l'apprentissage, donc lecture et acquisition de son automatisme. Et il faut bien préciser, chez des enfants intelligents, normalement scolarisés et indemnes de troubles sensoriels et de troubles psychologiques préexistants.
Ça, c'est bien de le préciser, parce que la dyslexie a longtemps, très longtemps, souffert de beaucoup de préjugés. J'espère que c'est moins le cas aujourd'hui, c'est ce que vous nous direz aussi tout à l'heure. J'imagine qu'avec ces 13 années d'expérience, vous avez vu les choses un peu bouger.
Énormément. Ce n'est plus
c'est
un
positif.
Mot tabou.
Bon.
C'est très positif.
Avant, on les considérait quand même comme des enfants bêtes.
Feignants,
ou feignants.
Et puis inintelligents, tout
ouais.
à fait.
Allez, on va rentrer dans le vif du sujet, découvrir votre parcours de vie, Odile, et puis on s'arrêtera sur 2 années qui ont marqué ce parcours. Vous avez choisi, vous, les années 2005 et 2011. Vous allez nous expliquer au cours de cette émission pourquoi ce choix. On démarre en musique avec Serge Gainsbourg et Initials Baby.
France Bleu, les plus belles chansons françaises. Une nuit que j'étais à me morfondre dans quelques pubs anglais du cœur de Londres, parcourant l'amour monstre de Wells. Me vint une vision dans l'eau de Cels. Des médailles d'impérateurs font briller à sa taille le bronze et l'or. Le platine lui grave d'un cercle froid la marque des esclaves à chaque doigt. En haut des cuisses, elle est potée, et c'est comme un calice portée. Elle ne porte rien d'autre qu'un peu d'essence de guervin dans les cheveux. Clochette d'argent de ses paniers, agitant ses grelots, elle avança et prononça ce mot Almeria.
En 1968, Serge Gainsbourg pour vous accompagner en musique cet après-midi.
Ici, on se souvient. France Bleu Pays de Savoie, vue d'ici.
Odile Goliet, auteur d'un livre méthodologique et pédagogique pour aider les parents et les enseignants à propos de la dyslexie, est notre invitée cet après-midi. Odile, on va donc revenir sur votre parcours. Je le disais tout à l'heure, donc vous êtes une maman de 6 enfants, vous habitez du côté d'Annecy, et Paul est le 5e, et c'est lui qui s'est révélé dyslexique, un trouble que vous ne connaissiez pas du tout avant que ça vous tombe dessus.
Non, en 2001, c'était un mot que je ne connaissais pas, qui n'était pas non plus connu dans le milieu scolaire ou le milieu de médecine scolaire. Le psychologue scolaire qui avait testé mon fils n'en parlait pas du tout. Il avait même dit à l'institutrice, « Ouf, si la maman de Paul veut qu'on lui mette l'étiquette de dyslexique, de toute façon, ça ne changera rien. »
Alors que ça change tout.
Ça a tout changé, puisque ça implique une prise en charge, une prise en compte des bilans, et finalement, un suivi tout le long de sa scolarité. Lorsque la dyslexie est évidemment sérieuse, on va même jusqu'à équiper l'enfant d'un ordinateur à l'école et lui favoriser les examens avec des aménagements bien spécifiques, dont le tiers-temps qui est le plus connu des aménagements.
Alors vous, comment vous en êtes arrivé à aller faire tester votre enfant par rapport à la dyslexie? Quelles difficultés il rencontrait au quotidien? Qu'est-ce qui vous a alerté en tant que maman?
Alors c'est ce que j'explique dans ma première publication 10 sur 10.
C'était vraiment le témoignage.
Voilà, c'était vraiment un témoignage qui raconte, je dirais, pas mois par mois, mais année par année scolaire, de la maternelle jusqu'à la troisième, le parcours de cet enfant. Et j'ai expliqué que justement en maternelle, il y avait des signes prédictifs, mais je ne les connaissais pas, en tout cas je ne les interprétais pas.
C'était lesquels ces signes?
C'était une lenteur, une fatigue, un découragement, un désintérêt total pour les activités en maternelle que les enfants aiment, c'est-à-dire la peinture.
Même ça, il n'aimait pas.
Il avait horreur de ça. Ou alors, il était le dernier à prendre le pinceau à l'école pour faire sa peinture. Et la maîtresse me disait, c'est étrange, Paul ne prend que la peinture noire. Et personne ne l'a interprété. En fait, c'était un enfant dépressif. La maîtresse me disait, quand même, c'est bizarre. Tout ce qu'on lui dit, on dirait que ça lui tombe comme s'il avait un imperméable sur la tête. C'est-à-dire que cet enfant n'était pas dans la communication.
Et à la maison, il était comme ça aussi, un petit peu en retrait?
Il avait des crises de comportement un peu agressif et coléreux lorsqu'il n'arrivait pas à se faire comprendre, ce qui était souvent le cas. Il a eu un retard de parole déjà, et lorsqu'il n'arrivait pas à se faire comprendre, il s'énervait.
Il y avait des dyslexiques dans votre famille, maintenant que vous savez ce que c'est.
Il y a des antécédents familiaux.
Parce qu'on sait qu'il y a un facteur héréditaire qui est important.
Il y a 70% d'antécédents familiaux dans la dyslexie.
Et beaucoup les garçons, plus de garçons
que
filles.
Oui, alors là, je ne suis pas scientifique pour l'expliquer, mais ça devrait s'expliquer par les gènes et la transmission génétique.
Donc avec le recul, maintenant, vous avez un autre regard sur vos aïeuls ou du côté de son papa?
Alors, recul par rapport à un cousin qui était dyscalculique, par rapport à un beau-frère, son écriture m'a toujours interpellée, et puis par rapport à mon ex-mari...
Donc
qui est certainement un dyslexique dysorthographique.
Mais non diagnostiqué comme beaucoup de cette génération-là.
Non diagnostiqué et non pris en charge. Ouais.
Alors, comment s'est passé du coup ce diagnostic? Vous êtes allé, quel est le professionnel que vous avez consulté? Comment, quelle a été un peu votre démarche?
Alors ça, je raconte parce que c'est un hasard et c'est vraiment un concours de bonnes circonstances. J'avais de nouveau rencontré dans ma vie une amie qui était devenue neuropsychologue, qui était avant orthophoniste et puis qui avait repris des études de neuropsychologie. Et qui donc s'était installée, et un jour, mais vraiment par un hasard incroyable, je la rencontre dans un hall de gare, je lui parle de ça, elle a pris tout de suite mon fils en bilan.
Il avait quel âge, Paul, là ?
Il avait 7 ans et quelques. Il était en fait en fin d'année de CP, en début de CE1, on va dire. Et puis, c'est grâce au bilan qu'elle a fait qu'on a pu vraiment mettre à jour toutes les difficultés. Mais on ne l'a pas encore nommé dyslexie puisqu'il faut attendre
c'est
un décalage
18
voilà, de 18 mois entre l'âge chronologique de développement et l'âge de lecture. Ce décalage doit être suffisamment significatif pour qu'on puisse dire c'est une dyslexie.
Ça veut dire qu'on ne peut pas diagnostiquer une dyslexie avant fin CE1.
CE1, début ouais. CE2. Et même si j'ai eu la remarque il n'y a pas longtemps d'une maman qui m'a dit mais enfin on ne peut pas dire qu'il est dyslexique, je dis non parce que jusqu'à 18 mois de retard, ça ne peut être simplement qu'un retard d'apprentissage.
Oui, parce que j'aimerais qu'on parle du fait qu'il y a une époque où on avait l'impression que tous les parents qui voyaient leurs enfants un petit peu avec des soucis, comme ça arrive à plein d'enfants,
oui.
dire bah, il est dyslexique. C'est-à-dire, on auto-diagnostiquait son enfant. C'était un peu la mode de dire
oui,
ah,
j'ai
bah,
connu
ils sont dyslexiques.
Ça dure encore un peu.
Il y en a encore.
Certains adultes me disent oh, ouais, moi j'ai été dyslexique. Je dis attends, on naît à la naissance dyslexique, on meurt dyslexique. C'est pas comme la varicelle, ça passe pas.
Ça se guérit pas.
C'est pas comme un trouble d'apprentissage, je dirais, simple, un retard simplement dans l'apprentissage lecture-écriture, qui se soigne, qui se prend en charge, et puis finalement l'enfant arrive à apprendre à lire comme les autres.
Il faut apprendre à vivre avec, c'est
voilà.
ça.
Voilà. Alors que la dyslexie, si on ne fait rien, le retard s'accentue, et ce sont des enfants qui peuvent, dans les cas les plus sévères, rester illettrés. Et à l'âge adulte, j'avance un chiffre dont je n'ai pas la source pour le vérifier, mais je sais que je l'ai lu quelque part. 80% des illettrés adultes seraient, je mets quand même au conditionnel, des dyslexiques non soignés, non pris en charge. C'est énorme.
Ouais. Bon, on va essayer d'expliquer, en tout cas de faire comprendre à ceux qui ont été touchés de près ou de loin par la dyslexie et ceux qui sont proches des enfants, je pense aussi au corps enseignant, à tous ceux qui s'occupent d'enfants qui peuvent être dyslexiques, puisqu'on estime qu'il y en a combien par
5,
classe
5, 6%, 8% dans les pays francophones, puisque c'est une affaire de langue, la dyslexie.
Ouais, bon, on va l'expliquer aussi dans quelques instants pourquoi, Odile, et puis découvrir eh bien, à travers votre parcours aussi comment vous vous êtes impliqué dans ce combat-là, parce que je vais utiliser le mot combat, parce que pour avoir lu votre premier livre, on sentait qu'il y avait un vrai investissement et que bah, fallait y aller et que ça demandait du temps et de l'énergie, ce que vous avez, Odile. On va donc accueillir aussi vos appels tout à l'heure puisqu'on offrira le deuxième livre d'Odile Gollier, 0820 20 1992. Ça, c'est pour nous joindre. Vous appelez Roselyne et on vous prendra en direct tout à l'heure. Plan. amour, Angoun, c'est son nouveau titre, 14h18.
Jusqu'à 16h30, cette année-là, sur France Bleu Pays de Savoie.
Odile Gollier est l'invitée de cette année-là, cet après-midi, pour nous parler de la méthode qu'elle a mise en place et les conseils qu'elle a écrits dans un livre, en deux tomes. Le premier concerne la dyslexie de manière générale et le deuxième sur... plus spécifiquement sur l'anglais, parce qu'on va le dire tout de suite, c'est vrai que dans les pays anglo-saxons, il y a plus de dyslexie que par exemple dans les pays latins comme l'Italie. Ça vient vraiment de la langue, la dyslexie.
C'est une question d'opacité de la langue, c'est-à-dire plus la langue est opaque, plus il y a des dyslexiques, puisque plus il y a de transcription phonème-graphème, c'est-à-dire la façon d'écrire ce que l'on entend.
Alors, je par exemple, en Italie, on prononce presque toutes les lettres.
En Italie, il y a, je crois, 34 sons et quelque chose comme 38 ou 40 façons de les écrire. Donc, la langue est transparente. On écrit ce que l'on entend. En français, il y a 40 sons, il y a 98 façons de les écrire.
Ça se corse un peu.
Ça se corse un peu. Et en anglais, il y a 44 sons. Bon, les chiffres varient. Et il y a 1200 façons d'écrire les sons anglais.
Donc on comprend bien que pour un dyslexique, apprendre l'anglais...
Il perd tous ses repères s'il en a déjà acquis dans une rééducation en langue française, dans sa langue maternelle. Quand il aborde l'anglais, de toute façon, il est perdu. Puisque les stratégies compensatoires ne marchent plus.
Mais on y reviendra, on détaillera un petit peu aussi le travail que vous avez fait sur l'anglais, puisque à la base, c'est aussi une langue que vous connaissez bien, puisque vous avez fait vos études en langue. La première année que vous avez choisie pour découvrir votre parcours, Odile, est l'année 2005, qui correspond à l'entrée en sixième de votre fils, Paul. C'était déjà une première étape, ça, de passer le primaire et d'arriver en sixième. Quel souvenir vous en gardez de cette entrée en sixième ?
En fait, j'en garde un très très bon souvenir, puisque Paul a été admis dans une sixième, dans un collège privé, une sixième qui était dite d'adaptation, c'est-à-dire que il y avait 20 élèves, on n'en prenait pas plus, avec des professeurs spécialement motivés pour accompagner ces enfants en difficulté d'apprentissage, difficultés de toutes sortes, il n'y avait pas que des dyslexiques.
Mais ça, c'est déjà une chance d'avoir pu intégrer ce type d'établissement, ça
aide
quand même.
Tout à fait, alors c'est... Je ne dirais pas que c'est généralisé, mais maintenant, il y a beaucoup d'établissements qui font soit des sixièmes dyslexiques, soit des classes avec un certain accompagnement personnalisé. Mais à l'époque, c'était vraiment une chance. Et j'ai eu, je ne dirais pas de la difficulté, mais disons que les places étaient chères. Et j'ai tout fait pour que mon enfant y rentre.
Parce que pour qu'on comprenne, ces années de primaire et ces années de collège, puis on va donner des nouvelles de Paul qui est actuellement en terminale, c'est
il
ça
il est en terminale pro, il va passer son bac. Au lycée d'agriculture de Poisy, dans la région annécienne, et il va très très bien. Il va à l'école avec son ordinateur, il est presque le premier de la classe, très sérieux et très bien dans sa peau.
Depuis quel âge il a l'ordinateur dans sa classe ?
Depuis la classe de 4e, c'est-à-dire l'âge de 13 ans, 13-14 ans.
Alors, tous les dyslexiques ne vont pas se retrouver avec un ordinateur dans la classe ?
Pas du tout, ça c'est vraiment une idée qu'il faut chasser. C'est pas parce qu'on est dyslexique qu'on doit prendre un ordinateur pour aller à l'école.
Alors, ça concerne qui, l'ordinateur ?
L'ordinateur concerne avant tout, en priorité, les dyspraxiques. Encore faut-il que la dyspraxie soit importante.
Qu'est-ce que c'est la dyspraxie ?
C'est une difficulté, je vais être extrêmement...
On va faire simple, hein. Oui, le plus simple possible.
C'est la difficulté dans la coordination des mouvements. Si vous voulez, entre ce que donne la tête, le cerveau comme ordre, et ce que fait la main qui écrit, il peut y avoir une mauvaise concordance des gestes.
Et les dyslexiques ne sont pas forcément dyspraxiques et inversement.
Exactement.
Hein, d'accord. Oui. C'est vrai qu'il y a tellement de dysfonctionnements que ce n'est pas toujours évident, hein, surtout quand on les regarde de loin et qu'on n'est pas touché, de comprendre les subtilités.
Oui, il y a la dysorthographie, la dysphasie, la dyspraxie, la dysgraphie, la dyscalculie.
Oui, rien que ça. Donc il y a plein de degrés différents.
Des dysfonctionnements qui concernent différents domaines. Par contre, je tiens à dire une chose, si on est dyslexique, on est forcément dysorthographique. C'est-à-dire des troubles dans l'apprentissage des mots, l'orthographe des mots. Mais si on est dysorthographique, on n'est pas forcément dyslexique. Je rejoins ce que vous disiez tout à l'heure, on ne met pas la dyslexie à toutes les sauces.
Oui, comme on a pu le faire et voilà. Comme certains continuent
tout à fait
à le faire. Alors on va s'arrêter sur cette année 2005 que vous avez choisie, puisque c'est aussi le principe de cette émission de vous découvrir, Odile. Cette année-là sortait au cinéma le film... Brise de Nice, autrement dit Brise de Nice. Je ne sais pas si vous l'avez vu avec Jean Dujardin.
Si, je l'ai vu. On en est avec mes enfants.
On en écoute un extrait.
Moi, c'est Gladys, la reine du Kiss.
Moi, c'est Igor. Igor de Sgor.
Igor de Sgor.
Cherche pas, t'as tort.
C'est le casse-casse-casse-casse-casse.
Marius Lacaille, comme l'oiseau.
C'est le casse-casse-casse-casse-casse-casse-casse-casse-casse-casse-casse-casse-casse-casse-casse-casse-casse-casse-casse-casse-casse-casse-casse-casse-casse-casse-casse-casse-casse-casse-casse-casse-casse-casse-casse-casse-casse-casse-casse-casse-casse-casse-casse-casse-casse-casse-casse-casse-casse-casse-casse-casse-casse-casse-casse-casse-casse-casse-casse-casse-casse-casse-casse-casse-casse-casse-casse-casse-casse-casse-casse-casse-casse-casse-casse-casse-casse-casse-casse-casse-casse-casse-casse-casse-casse-casse-casse-casse-casse-casse-casse-casse-casse-casse-casse-casse-casse-casse-casse-casse-casse-casse-casse-casse-casse-casse-casse-casse-casse-casse-casse-casse-casse-casse-casse-casse-casse-casse-casse-casse-casse-casse-casse-casse-casse-casse-casse-casse-
Bryce de Nice. Mais c'est vrai, quand on a plein d'enfants aussi, on se doit de suivre un peu aussi leurs goûts musicaux, cinéma.
Oui, faut suivre. Les quatre derniers booste. Sur les six sont des garçons. Alors, ils étaient à fond à l'époque avec ce film. Et on a vu tous les enfants à l'école faire casser.
Et ils continuent à le faire en maternelle. Oui. Hein, je peux témoigner. Avec Jean Dujardin, qui aura montré vraiment aussi toutes les facettes de son talent, avec notamment ce prix d'interprétation à Cannes pour le film The Artist. Vous aimez le cinéma?
Je suis allée voir ce film. Je l'ai adoré.
Très beau film en noir et blanc.
Formidable.
Muet.
Oui.
Une prestation incroyable.
Et puis, un détail un petit peu naïf que je vais vous donner, c'est que je trouve que les films d'aujourd'hui sont trop rapides visuellement. Et ce film-là était très reposant.
Oui, c'est vrai. Pour le cerveau, on avait l'impression d'être plus... Oui, tout à fait.
J'ai
d'accord
tout compris pour une fois, alors qu'il n'y a pas de parole.
Voilà, le petit clin d'œil ciné de Jean Dujardin avec ce souvenir de l'année 2005. Et puis, si vous n'avez pas vu The Artist et qu'il passe encore près de chez vous, profitez-en. Allez le voir. On se retrouve dans quelques instants avec Odile Gaulier.
Ce mardi, France Bleu vous propose une matinale spéciale consacrée à ceux et celles qui ont décidé de produire et travailler autrement en Pays de Savoie.
Ce que je veux dire, c'est l'argent pour l'argent, alors que là, c'est l'argent pour le travail.
Ils refusent la seule règle capitaliste pour gagner leur vie.
Certains viennent pour faire une nique à l'économie officielle.
L'économie autrement, plus humaine.
Moi, j'ai décidé de faire un lien de solidarité.
Une autre économie, d'autres systèmes d'échange, des reportages, des invités, un forum des auditeurs, matinale spéciale sur France Bleu, ce mardi matin.
Say
Simon and Garfunkel avec Mrs. Robinson.
Cette année-là, jusqu'à 16h30, sur France Bleu Pays de Savoie, Sylvia Depierre.
Odile Gaulier est notre invitée cet après-midi. Odile Gaulier, qui nous raconte son parcours de maman d'enfant dyslexique, qui s'est professionnalisée sur ce thème, on peut dire ça comme ça avec le temps, et l'aboutissement de ses 13 années d'expérience avec l'édition. Alors on va en parler, Odile, hein, parce que c'est vous qui avez vous-même édité, qui avez tout fait. Ça s'appelle « La dyslexie, prise en charge à l'école et à la maison ». Ça c'est le premier tome, puisque c'est un livre en deux tomes, et le deuxième tome, « L'anglais pour les dyslexiques ». Des livres qui sont sortis en septembre dernier, qui ont été bien accueillis. Vous avez même des cabinets d'orthophonistes qui vous les achètent, des collèges, même l'université de Genève qui vous l'a acheté. Donc ça c'est la meilleure des récompenses quand on se lance comme ça, d'avoir un tel accueil.
Oui, tout à fait. C'est vraiment la validation de toute mon expertise acquise sur le terrain. Il n'y a pas eu d'études pour ça. Simplement un bagage universitaire, une profonde motivation d'aider mon fils, de profiter de toutes les rééducations qu'il a eues et de mettre tout ça dans une méthodologie sérieuse et adaptée.
Finalement, c'est le hasard de la vie si vous êtes penché sur ce trouble d'apprentissage, mais en tout cas, vous y avez trouvé une vraie vocation.
Complètement.
Un vrai épanouissement personnel qu'on sent aussi. Hein.
Oui, tout à fait, parce que j'ai certainement eu aussi beaucoup de chance de rencontrer les bonnes personnes au bon moment. Ça s'est toujours bien passé et j'ai toujours trouvé les clés à toutes ces difficultés scolaires que rencontrait mon fils.
Alors justement, pour tous les parents qui nous écoutent et qui ont peut-être des petits à la maison, qui ont des troubles d'apprentissage, on a dit tout à l'heure, hein, y a des petits signes, mais bon, les signes sont variables. On a tendance parfois à utiliser le mot dyslexique à tort et à travers. Qui sont les professionnels qui permettent de faire le diagnostic? Ce sont les orthophonistes?
Alors oui, mais tout d'abord, je conseillerais aux parents, s'ils ont un doute, d'aller d'abord chez leur médecin, médecin généraliste, ou leur pédiatre, pour avoir une ordonnance pour faire un bilan chez une orthophoniste. On ne peut pas aller directement chez une orthophoniste si on n'a pas une ordonnance, puisque le bilan et les séances sont remboursées.
Donc on commence par là, voilà. Et ensuite...
Prendre vite rendez-vous chez une orthophoniste.
Là, elles sont débordées.
Actuellement, elles sont débordées. C'est entre 6 mois et 1 an d'attente parfois, en tout cas pour les meilleurs.
Il y en a des plus... spécialisés.
Oui, alors là, à ce moment-là, il faut peut-être s'adresser à l'ordre des orthophonistes pour avoir peut-être quelques adresses. Je n'en ai pas et je ne peux pas en donner. Donc,
oui, on va éviter.
C'est vraiment aux parents de se donner les adresses les uns aux autres. Je dirais aussi, c'est important d'aller faire un bilan pluridisciplinaire. C'est bien le bilan chez l'orthophoniste, mais ça peut cacher d'autres dysfonctionnements qui, eux, seront décelés par un bilan neuropsychologique.
Donc ça, c'est l'étape d'après.
Oui, ou en même temps.
Ou en même temps.
Ou je dirais même avant.
Alors, il y a quand même un point noir à ce bilan neuropsychologique. Autant le bilan orthophonique est pris en charge, autant le bilan neuropsychologique est à la charge des parents. Et ça, c'est quand même un gros point noir.
C'est assez terrible, les bilans neuropsychologiques, sauf s'ils sont pris peut-être dans des centres de recherche de troubles du langage et de prise en charge. Mais oui, ils ne sont pas remboursés. Là, je ne rentrerai pas dans le débat. C'est vrai que c'est difficile, mais c'est un choix à faire. Ouais.
Alors après, effectivement, il y a peut-être des endroits bien spécifiques où il est possible d'en faire avec une prise en charge.
Moi, personnellement, je connais des neuropsychologues qui travaillent en cabinet privé, libéral, mais qui font d'excellents rapports, d'excellents bilans. Donc il ne faut pas hésiter à faire le bilan.
Quand on peut.
Oui.
Alors, petit à petit, vous vous êtes impliqué, parce que quand on est parent d'enfant, c'est pas le tout de faire une prise en charge avec des professionnels. Il faut aussi que les parents soient derrière l'enfant. Ça a pris beaucoup de votre temps, concrètement?
Oui, il faut retrousser les manches. Le mieux, c'est d'avoir du temps disponible pour l'enfant. Si on l'a pas la journée parce qu'on travaille, il faut le trouver le soir. C'est très difficile.
Il faut faire quoi? Parce que parfois, on peut être aussi désemparé à pas savoir comment aider son enfant, puisqu'on comprend pas exactement comment il fonctionne. Passez-moi l'expression, mais c'est un peu ça.
Oui, alors moi, je rencontre beaucoup de parents et aussi sur Internet qui se renseignent comme ils peuvent. C'est des vrais autodidactes. Moi, je suis admirative de tous ces parents qui cherchent absolument l'information par les livres, par les sites Internet pour savoir ce que c'est que la dyslexie, comment on la prend en charge, quels sont les rééducateurs, qu'est-ce qu'il se fait dans les rééducations.
Et en tant que parent, on a aussi notre rôle à jouer.
Alors, c'est pour ça que j'ai écrit cette deuxième publication. C'est parce que j'avais envie d'impliquer les parents et de trouver une méthodologie qui mette en lien les parents et les professeurs. C'est pour ça que le titre, c'est « La dyslexie prise en charge à l'école et à la maison », pour qu'on parle tous le même langage et qu'il y ait des choses de fait de part et d'autre.
Vous pouvez acheter le livre et l'amener à l'école, le montrer aux professeurs de vos enfants. Ça permettra d'en discuter, ça peut être un bon moyen de...
Oui, il y a déjà des collèges qui me l'achètent.
Ouais, de démarrer la discussion. Alors, vous avez commencé, vous comme ça, Odile, aussi par des conférences, parce qu'on a fait appel à vous. On vous a demandé de venir expliquer.
Oui, ce sont les rééducatrices qui me disaient... qui disaient aux parents, écoutez, appelez la maman de Paul, parce que ce qu'elle fait réussit, les relations qu'elle a avec les professeurs, le partenariat... qu'elle a instauré marche. Et donc les parents me téléphonaient et j'ai eu comme ça reçu plusieurs fois des mamans toute une journée pour leur donner tous les documents que j'avais pour travailler avec elles la façon. Et puis je me suis aperçue que c'était un temps donné aux parents certes, mais ça me prenait de plus en plus de temps. Donc des associations de parents m'ont demandé d'intervenir, donc j'ai commencé à faire des petites conférences sympas. Ensuite, des équipes pédagogiques m'ont demandé d'intervenir. Et puis, peu à peu, ça a pris de l'ampleur. Et j'ai décidé de monter mon entreprise pour faire de la formation pédagogique aux équipes pédagogiques.
Ça fait combien d'années maintenant que vous avez monté votre entreprise ?
Ça fait 3 ans.
Et l'entreprise qui s'appelle DYS, hein, comme voilà. Dyslexie, D-Y-S, Coaching. Alors, si vous voulez découvrir tout ce que propose Odile, que vous soyez, on le disait tout à l'heure, hein, vous soyez parent ou enseignant, si vous voulez un petit coup de main ou découvrir ses ouvrages, alors on en offre au bout de la ligne bleue aujourd'hui au 0820 20 1992. Et puis, vous pouvez aller voir le site d'Odile Gollier, c'est www.dys-coaching.com. On se retrouve dans quelques instants, Odile, avec la deuxième année que vous avez choisie.
France Bleu, les plus belles chansons françaises.
Je suis pas comme Hiti, je veux rester ici. Ice cream et sweet home, comme quand j'étais môme. Mais seul dans mon lit, puisque t'es parti, je m'invente des fantômes, comme quand j'étais môme. qu'un métier peut rester ici. Ice cream et sweet home, comme quand j'étais mort, comme quand j'étais mort. Quand j'étais beau, comme quand j'étais beau, comme quand j'étais beau.
Comme quand j'étais môme, Eddy Mitchell, 14h39.
Ici, on découvre le monde. Cette année-là, France Bleu Pays de Savoie, vue d'ici.
Dans cette année-là, cet après-midi, une nouvelle invitée à découvrir, il s'agit d'Odile Goliet qui a mis en place deux ouvrages en un, parce qu'il y a un tome 1, un tome 2, la dyslexie, prise en charge à l'école et à la maison, et l'anglais pour les dyslexiques. La deuxième année que vous avez choisie est liée complètement à la publication de ces ouvrages, Odile, puisque c'est l'année 2011.
Oui.
C'était en septembre qu'ils sont sortis. Alors que vous êtes une maman de 6 enfants, est-ce que c'est pas un peu le 7e celui-là?
Ah oui, ce sera le 7e.
Avec une longue gestation hein, pour celui-là.
Une gestation de 14 mois environ. J'ai écrit donc ce livre. Je l'ai vraiment travaillé pendant presque un an et demi. Et puis, j'ai hésité pour choisir l'éditeur. Ça a pris du temps. Les éditeurs étaient à moitié chauds, parce qu'éditer un livre pédagogique sous-entend quand même une grande diffusion de presse, qui est toujours très difficile. Et je me suis lancée, je me suis dit, après tout, je vais faire moi-même. Donc, j'ai pris mon document Word, si je puis dire, sous le bras.
C'est un sacré boulot, ça. Hein.
L'ordinateur. Et puis, je suis allée voir un imprimeur. Et j'ai fait la mise en page toute seule avec, évidemment, l'aide de l'imprimeur. Hein. Il me faisait des propositions en document PDF. Et puis, voilà, j'ai mené de A à Z. Donc, j'ai monté l'entreprise de façon à ce que j'ai une gestion en comptabilité. Je suis devenue chef d'entreprise.
C'est pas mal.
Cette fois-ci, pas maman de 6 enfants, mais auteur de 2 livres.
C'est une belle reconversion professionnelle.
C'est
ça.
Passionnant.
C'est passionnant. Alors, c'est vrai que l'avantage du livre, parce que moi, j'ai potassé évidemment les livres, j'ai trouvé, il y avait notamment, parce qu'il y a plein de choses intéressantes, mais il y a quelque chose qui était vraiment intéressant, c'est que il y a tout un chapitre où vous expliquez à des gens qui ne sont pas dyslexiques, puisqu'à priori, c'est eux qui vont lire le livre, comment ce que voient, comment on fait pour lire, ce que ça donne quand on est dyslexique. Et ça, c'est effarant. Parce que tant qu'on ne l'a pas fait, on ne peut pas s'imaginer comment on lit le dyslexique. On ne comprend pas quand on voit un dyslexique. Mais pourquoi il ne comprend pas, comment il coupe les mots n'importe comment, pourquoi il écrit toujours faux. Il y a une incompréhension.
Ces exercices que je donne, enfin ces mises en situation que je donne, nous aident à nous mettre dans la peau d'un dyslexique.
Et ça, c'est vraiment bien pour les comprendre.
À mon avis, bon, ça n'engage que moi, mais à mon avis, on ne peut pas mettre en place des aménagements pédagogiques extrêmement concrets et efficaces en classe ou à la maison si on ne comprend pas et on n'intègre pas les difficultés des dyslexiques. Les parents, eux, ils sont vraiment capables de donner exactement la description des difficultés que rencontre leur enfant. Mais le professeur n'est pas toujours informé. Et ces mises en situation concernent surtout les professeurs pour qu'ils comprennent pourquoi un enfant fait des fautes.
Alors, il y a les mises en situation, il y a aussi plein de conseils, notamment sur, quand on utilise l'ordinateur, les polices d'écriture à utiliser, les couleurs. C'est une mine d'informations. Je pense au premier qui est vraiment plus généraliste, le premier tome, et le deuxième, lui, plus spécifique à l'anglais.
Le deuxième tome aborde l'apprentissage de l'anglais avec l'intégration de toute la pédagogie décrite dans le tome 1. C'est pour ça que cette publication est en 2 tomes. L'anglais ne concerne évidemment que ceux qui sont intéressés par l'apprentissage de l'anglais. Mais pour lire et comprendre le tome 2, il faut avoir lu le tome 1 qui est toute la pédagogie, ce que j'appelle l'orthopédagogie, c'est-à-dire la pédagogie différenciée, spécifique pour les dyslexiques. Et dans ce premier tome qui concerne donc la dyslexie, j'ai mis des exemples extrêmement concrets pour aborder un document scolaire.
Il y a plein de conseils aussi intéressants sur avec le jeu des couleurs, des petits dessins. On voit que le dyslexique a une autre vision que le non-dyslexique. Il photographie plus les choses.
Oui, tout à fait.
On joue beaucoup avec le visuel. Hein.
Il est visuel auditif, c'est-à-dire qu'en fait, si on l'aide à utiliser toutes ses perceptions visuelles, auditives ou kinesthésiques, c'est une mine d'or. Ces enfants ont le potentiel, mais n'ont pas toujours accès à ce potentiel. Et le fait de les aider à se connecter à leur perception les mène justement à la réussite, vraiment comme tous les autres enfants, parce qu'on leur donne donc une façon, une méthode pour adopter des stratégies compensatoires, et ensuite ils acquièrent les automatismes comme les autres enfants.
Ça leur permet de suivre une scolarité normale ou pas, Odile ?
J'en suis persuadée.
Oui.
Je suis absolument persuadée que si on fait des aménagements spécifiques pour ces enfants-là, qui peuvent servir à tous les enfants.
Oui, ce qui est bon pour eux.
J'ai
bon
souvent
tous.
La remarque des professeurs que j'ai en formation qui me disent à la fin du stage, mais si je fais ça pour toute ma classe, ça devrait être possible. Je leur dis, mais non seulement c'est possible, mais vous verrez que votre cours avancera bien plus vite. Plus efficacement, parce que le document donné sera aéré, parce que
la méthodologie mise en page, tout est
sera plus adaptée.
Hein. Oui. Puis comme ils ont de la difficulté aussi à lire, alors on voit bien les choses à ne pas faire, c'est-à-dire les professeurs qui font des polycopiés, et c'est eux-mêmes qui ont écrit les énoncés.
Je donne des exemples de ce qu'il faut faire, de ce qu'il faut
et ce qu'il ne faut pas faire. Oui. Ouais. Donc c'est très concret, c'est très pratique. Il nous en reste quelques-uns au bout de la ligne bleue, 0820 20 1992, et puis allez les découvrir aussi sur le site d'Odile Goliet, 10-coaching.com pour le site internet. Alors l'année 2011, c'est l'année de sortie de ce deuxième ouvrage, Odile, en deux tomes, mais c'était aussi la déception pour Annecy, qui ne remportait pas les Jeux Olympiques de 2018, puisque le CIO a préféré la ville de Pyeongchang en Corée du Sud. Vous souteniez ou pas cette candidature, vous ?
Ah, j'étais
sans rentrer dans la polémique.
J'étais pour les deux. Je me suis dit, si Annecy ne l'a pas,
c'est qu'on ne veut pas la voir.
C'est qu'on ne veut pas la voir, et puis tant mieux. Si Annecy l'a, bah super, on retrousse les manches et on y va.
Vous étiez prête à accueillir les deux décisions. Le 30 janvier de cette année 2011, la France était championne du monde de handball pour la quatrième fois de son histoire. Je parle un peu de sport parce que vous aussi, le sport a fait beaucoup partie de votre vie, Odile.
Énormément. D'ailleurs, j'ai fait beaucoup de handball en compétition quand j'étais en collège.
C'est un beau sport, ça. Hein,
oui.
Avec une belle
oui,
mentalité.
Oui, oui. J'étais très, très sportive quand j'étais jeune. J'ai fait de la montagne, j'ai fait du tennis, de la compétition de ski de fond.
Moins maintenant ?
Beaucoup moins avec un certain parcours de jambes cassées ou d'opérations diverses, de blessures. Mais je fais encore de la montagne, je fais encore un peu de ski et puis surtout, beaucoup de chants lyriques.
Ah, c'est du sport aussi, le chant.
C'est très physique de chanter.
Ouais. Alors, pour l'année 2011, on retiendra aussi le 30 novembre prochain, ça approche à grands pas, la fin de la télévision analogique en France, remplacée par cette fameuse TNT. Est-ce que vous regardez un peu la télé, Odile ?
Pas beaucoup.
Pas trop le temps ?
Pas le temps, pas envie. J'aime beaucoup la lecture. Je cible un peu les émissions que j'ai envie de regarder, mais je n'allume pas la télé pour comme ça au hasard.
Allez, on se retrouve dans quelques instants avec Odile Goliet. Si vous avez une question à lui poser spécifique sur la dyslexie, sur ses ouvrages, sur son parcours aussi de maman de dyslexique, parce qu'au moins elle connaît ce dont elle parle, vous pouvez nous appeler au 0820 20 1992.
Le Pays de Savoie, radio supporter du Chambéry Savoie Handball. Une saison d'exception, de belles émotions sportives et un prochain rendez-vous au phare de Chambéry Métropole avec la volonté de s'imposer.
On parlait de handball à l'instant. Eh bien, sachez que ce samedi, donc demain, le Chambéry Savoie Handball reçoit Nantes pour le compte de la 8e journée du championnat de France. Coup d'envoi de la rencontre à 20h au phare avec France Bleu, Pays de Savoie, radio partenaire officiel.
avec Knock on Wood, 14h50.
Cette année-là, sur France Bleu Pays de Savoie.
On parle de la dyslexie avec Odile Gaulier cet après-midi, qui vient de sortir un nouvel ouvrage, La dyslexie, prise en charge à l'école et à la maison, ouvrage en deux tomes, qui parle également de l'apprentissage de l'anglais. Et c'est, vous vous dites c'est possible, l'apprentissage de l'anglais par les dyslexiques. Hein.
Oui, je suis tout à fait convaincue.
Vous êtes confiant.
Si on aborde l'apprentissage de l'anglais de façon extrêmement méthodologique, en commençant par l'apprentissage des sons et uniquement des sons. Comme en français, quand on fait des séances d'orthophonie, si on commence d'abord par répertorier, apprendre tous les sons, ensuite l'enfant se fait une idée de ce que les sons qu'il entend, la manière dont ils peuvent être écrits, et ensuite il fait donc le lien entre l'oral et l'écrit, et là, il peut aborder l'écrit.
Et si cette boucle ne se fait pas, forcément...
Il est perdu.
Il est perdu et c'est le début de toutes les difficultés. On va accueillir, si vous le voulez bien, une question de Christelle qui est à Gier. Bonjour Christelle.
Oui, bonjour.
Nous vous écoutons Christelle.
Alors moi j'avais une question par rapport à la mémoire en fait. Donc quand on était, et qu'on, comme vous l'avez dit, on les reste dyslexiques, je voulais savoir si, en fait, si ça pouvait poser des soucis pour retenir des choses en fait.
Vous êtes dyslexique Christelle?
Ça n'a jamais été reconnu vraiment, parce qu'en fait, moi, j'étais en primaire, j'ai toujours eu énormément de mal à apprendre des autodictées, à comprendre les problèmes de maths, etc. Et quand j'étais en CM2, je suis tombée sur une institutrice qui était formidable, qui, elle, a parlé de ça à mes parents et qui me gardait tous les soirs une heure de plus à l'école. Et on a travaillé avec un cahier spécifique, en fait. Et c'est grâce à ça, je me souviens très bien à cette période-là où je pouvais enfin comprendre ce que je lisais, en fait.
Ouais. Et c'est bien de signaler qu'il y a des enseignants qui se donnent les moyens, hein. Ça, c'est bien de le dire.
Oui.
Et vous avez l'impression que vous avez de la peine à retenir, c'est que ça, vous demandez si ça a une influence sur la mémoire.
Ça, j'ai toujours eu du mal à retenir des textes, des noms de fleurs, des choses comme ça, des noms de lieux, etc. Quoi.
Odile, est-ce que ça peut avoir un lien?
Ah, mais complètement, ça m'étonne pas. Le dyslexique a souvent une mémoire de travail
qui est courte,
une difficulté pour mémoriser parce qu'il n'a pas